VOA Afrique, Washington DC, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Bonjour. Ici aux États-Unis, parlant de l'adolescent âgé de 17 ans accusé d'avoir tué la semaine dernière deux personnes lors de manifestations à Kenosha dans le Wisconsin, le président Donald Trump a déclaré lundi que le suspect, Kyle Rittenhouse, tentait de fuir et qu'il aurait été tué par des manifestants s'il n'avait pas fait feu. Monsieur Trump doit se rendre ce mardi dans cette ville où des manifestations souvent violentes ont éclaté après qu'un policier blanc a grièvement blessé le 23 août un Africain-Américain, Jacob Blake, en lui tirant dans le dos à cette reprise. Une rencontre avec la famille de Blake n'a pas pu être organisée. Rittenhouse a été inculpé de meurtre et de tentative de meurtre. Son avocat a indiqué qu'il entendait plaider la légitime défense. Monsieur Trump, qui fait campagne sur le thème de la loi et de l'ordre, s'est insurgé contre ce qu'il a appelé des émeutes et l'anarchie menée par des manifestants de gauche. Et Joe Biden, son rival démocrate à la présidentielle du 3 novembre, est selon Monsieur Trump une marionnette aux mains de l'extrême gauche. Quant à Monsieur Biden, il a accusé Monsieur Trump d'alimenter la violence avec sa rhétorique et d'être une présence toxique à la Maison-Blanche. Mais M. Biden a souligné que les émeutiers et pilleurs devaient être traduits devant la justice. Entre M. Biden et Trump, c'est donc à qui parviendra à rejeter la responsabilité de l'embrasement sur l'autre. En Guinée, le président Alpha Condé sera candidat à un troisième mandat lors de l'élection du 18 octobre. Ce sera dans un instant avec Yacouba Ouédraogo. En Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara brigue également un troisième mandat au scrutin du 31 octobre, les candidatures de l'ex-président Laurent Gbagbo, toujours en Belgique, et de l'ex-chef rebelle et ancien premier ministre Guillaume Soro, qui réside en France, ont été déposées lundi par leurs partisans à la commission électorale indépendante à Abidjan. Ces poids lourds de la vie politique ont tous deux été raillés des listes électorales en raison de condamnations par la justice ivoirienne et il est peu probable que le Conseil constitutionnel valide leur candidature. En République démocratique du Congo, une trentaine d'élèves ont été attaqués à la veille de leur examen de fin d'études secondaires par des hommes armés qui ont violé une ou plusieurs lycéennes dans le nord-est du pays. Selon des sources au sein de l'Église et du gouvernorat, un groupe d'hommes armés a attaqué dans la nuit de dimanche à lundi un centre qui hébergeait 32 élèves à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a ordonné lundi au ministère de la Santé de publier les détails de tous les achats effectués durant la pandémie de COVID-19. Il réagissait à des accusations de détournement de millions de dollars de fournitures médicales essentielles impliquant des responsables et des hommes d'affaires. Et particulièrement visé l'agence kenyane de fournitures médicales, organisme étatique au centre d'un scandale qui prend de l'ampleur et a déclenché des grèves dans les hôpitaux mal équipés et des manifestations. Les États-Unis ont dépassé lundi les 6 millions de cas de COVID-19, enregistrant 1 million de tests positifs dans les trois dernières semaines. Mais si l'épidémie est sur la pente descendante, elle est encore loin d'être contenue, comme en Océanie. Les États-Unis enregistrent chaque jour un tiers de nouveaux cas en moins par rapport au pic de juillet, selon l'université Johns Hopkins. Mais le virus circule encore beaucoup dans certaines régions et la réponse sanitaire reste fragmentée et inégale d'un État à un autre. 183 000 personnes sont mortes du coronavirus dans ce pays. Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé lundi les gouvernements à dialoguer avec les manifestants anti-masques tout en rappelant à ces derniers que le virus est bien réel et tue. cela, suite de nos informations, en Guinée, le président Alpha Condé sera candidat à un troisième mandat lors du scrutin du 18 octobre. L'annonce en a été faite lundi soir par son parti. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée, l'avait sollicité début août pour qu'il se représente. C'est à travers un communiqué lu à la télévision nationale par le directeur général de la télé, Sékouba Savané, que le RPG a annoncé la réponse positive de son candidat Alpha Condé.
Nous avons l'immense privilège et le bonheur d'informer la population guinéenne que celui-ci a accédé à notre demande. Le président Alpha Condé sera bien notre candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020.
À 82 ans, Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, avait dû prendre acte sans formellement s'engager, mais en demandant à sa formation et à ses alliés de s'engager sur un programme centré sur les femmes et les plus démunis. Les partis de la majorité ont soumis au président une proposition de pacte pour l'application de ce programme, a indiqué le RPG dans son communiqué. La constitution guinéenne limite le nombre de mandats présidentiels à deux. Mais selon les partisans de M. Condé, l'adoption en début d'année d'une nouvelle constitution qui maintient cette limitation lors d'un référendum boycotté par l'opposition permet au président de remettre les compteurs à zéro. Lancé en octobre 2019 par le Front national pour la défense de la Constitution, formé de partis d'opposition et d'organisations de la société civile, la mobilisation contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé, plusieurs fois réprimé, a fait des dizaines de morts parmi les manifestants.
En Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC au pouvoir, a apporté son soutien au président Cyril Ramaphosa, après que son prédécesseur Jacob Zuma l'a accusé de s'attirer les bonnes grâces de la minorité blanche. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans une récente lettre ouverte, le chef de l'État a exhorté les membres de l'ANC à affronter la dure réalité et à admettre que leur formation était devenue l'accusé numéro un en matière de corruption. Dans un courrier ayant fuité dans la presse, Jacob Zuma, qui a dirigé l'Afrique du Sud de 2009 à 2018 et cité dans plusieurs affaires de corruption, a répondu à son successeur. Il a estimé que ses propos étaient fondamentalement erronés et qu'il était totalement injustifié de reprocher à tout l'ANC la mauvaise conduite de quelques-uns. Pour Jacob Zuma, l'actuel président accuse tout l'ANC pour sauver sa peau. Mais après une réunion de son organe suprême, l'ANC a indiqué appuyer le contenu de la lettre du président Ramaphosa, la qualifiant de formulation claire de la position et des principes du parti. L'ANC souligne que cette campagne chorégraphiée contre le président n'empêchera pas le mouvement de mener et d'intensifier son combat contre la corruption. Une récente série d'affaires de corruption liées à la pandémie de coronavirus fait débat en Afrique du Sud, alors que Cyril Ramaphosa avait promis de débarrasser le pays de ce fléau.
Et au Zimbabwe, nouvelle annonce du gouvernement concernant les fermiers blancs étrangers dont les terres ont été confisquées. Il leur sera proposé des terres ailleurs si la restitution de leurs fermes n'est pas possible. Précision de Michel Joseph.
Le mois dernier, le Zimbabwe s'est engagé à verser des compensations à hauteur de 3,5 milliards de dollars aux fermiers blancs dépossédés de leurs exploitations agricoles sous le régime du défunt président Robert Mugabe. Des lois votées sous un bref gouvernement d'opposition, mais ignorées par le président Mugabe, prévoient que les fermiers protégés par des traités entre leur gouvernement et le Zimbabwe doivent être compensés pour leurs terres, mais aussi leurs autres biens confisqués. Dans une déclaration conjointe, le ministre zimbabwéen des Finances, Ntuli Nkube, et son collègue de l'agriculture et des affaires foncières, Anxious Musuka, ont invité les fermiers blancs à adresser au gouvernement des demandes de récupération de leurs terres. Ceux des fermiers dont les terres étaient ciblées pour la nationalisation, mais qui les occupent toujours, peuvent solliciter un bail de 99 ans. Le président Emmerson Mnangagwa a fait savoir qu'il est hors de question de revenir sur la réforme agraire dans son pays. Toutefois, le leader zimbabwéen estime qu'une juste compensation des fermiers blancs pourrait améliorer les relations avec les pays occidentaux. Au nombre de plus de 4500 lorsque la réforme agraire a commencé il y a 20 ans, les fermiers blancs ne sont plus qu'environ 200 aujourd'hui au Zimbabwe.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
en RDC, Transpro, la société publique de transport en commun, attend l'arrivée de 450 nouveaux bus. C'est ce qu'a annoncé Didier Mazinga, le ministre des Transports et Voies de Communication, le 29 août 2020. Ces bus qui desserviront la ville de Kinshasa et ses environs ont été achetés au Brésil. Sur les 500 bus achetés par le gouvernement en 2013, seuls 120 seraient en circulation. En Guinée, Kunfabo, une marque de smartphones africains et d'applications, vient de finir en moins d'un an le remboursement d'un crédit accordé par la Société Générale de 300 000 euros. Cette convention de partenariat avec une ligne de crédit sans condition était facilitée par l'État guinéen dans le cadre des mécanismes d'appui au développement des petites et moyennes entreprises, a témoigné sa fondatrice Fadima Diawara dans Financial Afrique. La Société Générale s'est occupée également de la distribution pour la start-up qui envisage d'ouvrir ses propres points de vente dans le futur. Au Tchad, un rapport de l'OCHA de l'impact du coronavirus sur la vie économique et sociale affirme que la fermeture de près de 16 900 structures d'enseignement touchant plus de 3,4 millions d'apprenants va entraîner une baisse de la productivité future. La crise a aussi mis au chômage plus de 55 000 enseignants. Le manque à gagner seulement pour les enseignements fondamentaux et supérieurs est estimé à 3,3 milliards de francs CFA.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, nous commençons par des nouvelles des transferts. Yacouba Sonye, l'attaquant burkinabé, a sorti Kotoko au Ghana. En fin de contrat, a signé avec Young African Sport Club en Vodacom Première Ligue zambienne. Le Sénégalais Mam Biram Diouf a quitté Stoke City en Championship anglaise pour rejoindre Atia Sport, le promu de 2-1 en circuit. Diouf, 32 ans, va connaître son quatrième championnat. Le gardien de but marocain Yacine Bono, prêté au FC Séville, est sur le point de retourner à Gérone, son club en Italie, reste finalement chez les Andalous. Un contrat de 4 ans attend Bono avec le club espagnol, récent vainqueur de la Ligue Europa, grâce notamment aux performances du portier des Lions de l'Atlas. Ailleurs, Zlatan Ibrahimovic, bientôt 39 ans, prolonge pour une saison son contrat avec l'AC Milan, où la star suédoise est revenue en janvier dernier. En Espagne, le premier classico FC Barcelone-Real Madrid en Liga sera disputé le 25 octobre prochain au Camp Nou, ont annoncé la Liga et la Fédération espagnole de football. Après cette première affiche, le Barça du nouvel entraîneur Ronald Koeman et le Real Madrid de Zinedine Zidane, champion en titre, s'affronteront à nouveau pour le classico retour de la Liga le 11 avril au Santiago Bernabéu, si les travaux et l'évolution de la pandémie le permettent bien sûr. Reste encore l'inconnu de savoir si la superstar argentine Lionel Messi, en plein conflit avec la direction du club catalan et qui souhaite quitter le club Blaugrana, sera présent lors de ces deux rendez-vous. Les premières rencontres de la saison 2020-2021 de Liga seront disputées le week-end des 12-13 septembre. Les matchs se disputeront à huis clos. La saison se refermera le week-end du 23 mai 2021. Toujours en Europe, Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich, a été élu pour la première fois footballeur de l'année en Allemagne, après avoir marqué cette saison 34 buts en Bundesliga et 15 en Ligue des Champions. Sur 525 suffrages exprimés cette année, Lewandowski en remporte 276, loin devant ses deux dauphins et coéquipiers au Bayern, Thomas Müller et Joshua Kimmich. Chez les dames, Pernille Harder, finaliste malheureuse de la Ligue des Champions avec Wolfsburg, a été élue footballeuse de l'année en Allemagne. Tennis, des nouvelles de l'US Open. La Tchèque Markéta Vondrousova est la première qualifiée pour le deuxième tour du tournoi new-yorkais. Au prochain tour, Vondrousova affrontera la Bélarusse Aliak Sandra Sanovic ou l'Américaine Francesca Di Lorenzo. Chez les hommes, l'Argentin Diogo Schwartzmann, 13e mondial et quart de finaliste l'an passé, a pris la sortie dès le premier tour, battu par le Britannique Cameron Norrie. Norrie affrontera un autre Argentin au prochain tour, puisque Federico Coria a battu le Taïwanais Jason Yang, qui a abandonné au début du 5e set.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, les autorités affirment avoir renforcé la sécurité le long des frontières avec la République centrafricaine et le Nigeria après des incursions rebelles présumées et des interceptions de véhicules transportant des explosifs. Reportage à Garoua du correspondant de Voice of America, Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
Une équipe de responsables gouvernementaux et des militaires ont bravé lundi une forte averse dans le nord du Cameroun pour visiter la ville commerciale de Fakété, à la frontière avec le Nigeria. Pour Jean Abassé Eddy, gouverneur de la région nord du Cameroun où se trouve Fakété, ce voyage consiste à s'assurer que la frontière avec le Nigeria est déjà sécurisée.
Après un renseignement, la saisie par l'opération Alchemy a compté de lundi. L'activité des starlets est interdite sur toute la région du Nord.
Le gouverneur Eddy n'a pas communiqué combien de soldats supplémentaires avaient été déployés dans la zone frontalière. Jude Mofort, coordinateur d'une opération gouvernementale visant à sécuriser cette zone, a déclaré avoir invité le gouverneur et ses hauts fonctionnaires en raison de la hausse croissante d'insécurité le long de la frontière. Selon lui, l'armée a intercepté la semaine dernière deux véhicules ayant fait rentrer au Cameroun des explosifs en provenance du Nigeria. Il affirme que les voitures comme les Toyota Starlet sont de plus en plus utilisées pour transporter des marchandises illégales et interdites.
Il est de notre devoir de contrôler tout ce qui rentre dans le pays. Cette Starlet est arrivée et quand nous avons essayé de l'arrêter, elle a refusé. Nos hommes ont utilisé une technique spéciale pour arrêter les véhicules. Alors que nous contrôlions les véhicules, les deux occupants du véhicule se sont enfouis. C'est alors que nous avons découvert ce stock d'explosifs.
Des enquêtes ont été ouvertes selon M. Mofort pour déterminer l'origine et la destination des explosifs. Il a également affirmé que de très grandes quantités de marchandises interdites en provenance du Nigeria et pouvant compromettre la sécurité des Camerounais avaient été saisies. Pour le gouverneur, ces explosifs étaient destinés à commettre des atrocités au Cameroun ou étaient en transit vers la République centrafricaine voisine en difficulté. Le général Aga Robinson, commandant des troupes camerounaises luttant contre l'insécurité à la frontière camerounaise avec la Centrafrique et le Nigeria, a également visité les zones frontalières. Le général Robinson confirme que l'armée a également remarqué une augmentation du nombre d'enlèvements contre rançon le long de la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Le général Robinson a augmenté ses troupes à la frontière parce que les autorités camerounaises ont signalé pas moins de 8 incursions de présumés rebelles centrafricains en une semaine seulement.
Nous sommes venus analyser les opérations en cours pour que le succès que nous enregistrons ces jours-ci se poursuive. Nous sommes également venus parler à nos soldats pour leur faire savoir qu'ils doivent mener à bien leur mission avec une conscience professionnelle. Pour finir, nous appelons la population à dénoncer les suspects pour que les militaires puissent les défendre facilement.
Le général Robinson a déclaré que, lors d'une incursion, les rebelles sont repartis avec du bétail et de l'argent qu'ils ont volé aux éleveurs de la ville frontalière de Tinière. Des civils ont déclaré que deux autres attaques contre des commerçants avaient été signalées dans la ville frontalière de Galim. Selon leurs témoignages, les rebelles ont également volé de l'essence et se sont enfuis à moto. Dimanche dernier, une confrontation avec l'armée camerounaise a abouti à la mort de trois présumés rebelles restés à Tinière. L'armée camerounaise a déclaré avoir saisi les armes de guerre des rebelles qui avaient attaqué pour se ravitailler, mais aucun détail supplémentaire n'a été fourni.
Au Rwanda, la police a annoncé ce lundi l'arrestation de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda. Il est accusé d'actes de terrorisme. Critique de longue date du président Paul Kagame, il a fondé le mouvement rwandais pour le changement démocratique. Le bureau d'investigation du Rwanda a qualifié ce MRCD et son bras armé, le Front de Libération Nationale, de groupes terroristes extrémistes. Et le Rwanda a accusé le Burundi et l'Ouganda, voisins, de les abriter. Monsieur Rusesa Bagina vivait en exil en Belgique. Pour en parler, Eric Manirakidza a joint en France l'analyste Athanase Karayenga.
Écoutez, je pense que c'est un gros coup parce que Rusesa Bagina était incarné dans un film célèbre qui s'appelle Hôtel Rwanda. Et il me semble que depuis la sortie de ce film, il est considéré comme un... non pas du tout le personnage qu'il incarne dans le film, mais plutôt comme quelqu'un qui aurait trahi les victimes qui sont venues à l'hôtel Mille Collines et donc qui visiblement figure parmi les personnes qui étaient recherchées pour avoir eu une responsabilité importante dans le génocide contre les Tutsis en 1994 au Rwanda.
N'est-ce pas un paradoxe parce que Rusesa Bagina, il a été médaillé de la liberté par le président Bush ici aux États-Unis.
Mais je pense que c'était dans la foulée de la sortie du film Hôtel Rwanda, qui est un film absolument fabuleux. Moi-même, je l'ai regardé, je l'ai vu, j'étais ému. Mais il semble que c'était un film plutôt fiction, parce que la réalité qu'incarnait le personnage de Rusesa Bagina dans le film, à mon avis, d'après ce qu'on a dit, ça ne reflétait pas du tout la réalité des faits. C'était une fiction. Et peut-être que le président Bush est tombé dans le même piège que n'importe quelle personne de bonne foi. Le fait de voir ce film, effectivement, si Rusesa Bagina Paul avait fait ce qui est dit dans le film, ça serait effectivement un héros. Mais peut-être que c'est encore vrai, mais attendons pour voir comment la justice va apprécier cette distance entre les faits qui lui sont reprochés et les faits tels qu'ils sont relatés dans le film.
Rusesa Bagina, il est citoyen belge, il n'a pas été livré par la justice de Bruxelles. Quelles pourraient être les conséquences pour le régime de Kigali? Est-ce que la Belgique ne pourrait pas intervenir de la même manière que le Royaume-Uni a intervenu une fois sur le cas de Violette Wamahoro en mars 2017 et à l'époque le Parlement britannique avait menacé de couper les aides au Rwanda et finalement cette femme a été libérée.
Il se pourrait effectivement que M. Rusesa Bagina soit arrêté pour de mauvaises raisons, mais il se pourrait aussi qu'il ait été arrêté après une collaboration de plusieurs polices, parce que dans ce genre de criminalité internationale, on l'a vu pour le cas de Félicien Kabuga, il y a plusieurs polices, la police française a agi, la police internationale Interpol a agi. Je ne pense pas qu'on puisse d'emblée penser que la Belgique n'était pas au courant. Peut-être que la Belgique a contribué à cette arrestation d'une façon ou d'une autre.
Le parquet belge a été informé par Kigali qu'il a été arrêté.
Ben voilà, donc avant d'affirmer quoi que ce soit d'une façon définitive, attendons les faits, mais a priori, dans ce type de criminalité internationale, ce ne serait pas surprenant du tout que même dans la plus grande discrétion, des polices de plusieurs pays ou des polices internationales aient collaboré jusqu'à l'aboutissement de l'arrestation d'un présumé coupable.
Joint en France, l'analyste Athanase Karayenga.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La pandémie de COVID-19 a fait plus de 14 000 morts en Afrique du Sud et a considérablement affecté les rites funéraires traditionnels. Des pratiques d'enterrement longtemps observées sont désormais laissées de côté. Jacques Aristide.
Un enterrement sud-africain est généralement une affaire élaborée, souvent organisée un samedi avec des membres de la famille et d'autres personnes endeuillées, venant de loin parfois, pour prendre part aux veillées nocturnes et laver le corps. Des centaines de personnes peuvent assister aux funérailles et certaines le font encore malgré les nouvelles restrictions du gouvernement limitant à 50 le nombre de proches et amis pouvant rendre un dernier hommage à l'être cher. Certaines de ces cérémonies ont été montrées du doigt pour ce qui est de la propagation du coronavirus. Plus tôt cette année, les responsables de la province du Cap-Oriental ont identifié 200 cas liés à deux funérailles dans les villes de Port-Elisabeth et de Port-Saint-John. Même les dirigeants sud-africains ont enfreint les règles. Lors des funérailles d'État de l'éminent activiste anti-apartheid, Andrew Mlangeni, qui était emprisonné aux côtés de Nelson Mandela, les membres du parti au pouvoir ont été critiqués pour ne pas avoir observé la distanciation sociale alors qu'ils se pressaient autour du cercueil. Pour éviter cela, certains entrepreneurs de pompes funèbres acceptent de conduire le corbillard depuis la maison du défunt jusqu'à sa tombe. Tagu Sideko est directeur des opérations chez Masvidia Funerals dans le canton de Katlehong, près de Johannesburg.
La maladie de COVID-19 a eu un très grand impact sur notre entreprise. Nous n'avons jamais été aussi occupés qu'auparavant. Dans la culture africaine, normalement, nous enterrons le week-end, le samedi et le dimanche. Cela a complètement changé. Maintenant, nous enterrons chaque jour. La famille de quelqu'un décédé de COVID ne peut malheureusement pas laver le corps du défunt. À l'hôpital, le corps est mis dans 3 ou 4 sacs mortuaires qui ne sont pas censés être ouverts du tout.
Tagu Sideko craint d'être lui-même infecté. En raison de l'augmentation du nombre de décès, les familles ne peuvent plus choisir le jour de l'inhumation. Des autocollants jaunes avec un pictogramme de danger biologique et les mots très contagieux sont apposés sur les cercueils des victimes de COVID-19. Carl van der Riet est le patron de la compagnie d'assurance funéraire Avbob.
Les gens traitent des traumatismes de différentes manières et comptent sur les réseaux familiaux pour les aider et les soutenir pendant des périodes de deuil comme celle-ci. Les gens n'ont plus ce niveau de soutien et ne sont plus à mesure de traiter les traumatismes et les deuils comme ils le faisaient auparavant, et cela augmente le sentiment de stress et d'anxiété. Je pense que c'est l'une des conséquences involontaires ou non reconnues de la réglementation.
Les personnes qui enfreignent les restrictions encourent une amende ou une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison. Alors que l'Afrique du Sud continue d'assouplir graduellement les mesures de confinement, beaucoup espèrent que de tels rites seront à nouveau autorisés.
La normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël a franchi un nouveau pas ce lundi avec le premier vol commercial direct entre Tel Aviv et Abu Dhabi. Ce vol inaugural ouvre plusieurs opportunités économiques pour les deux pays, mais constitue aussi une importante avancée diplomatique pour la région, sous la houlette de Washington. Pour une analyse, Abdelrahman Dia a joint à Tel Aviv le docteur Eli Carmon.
Pour Israël, c'est vraiment très important, c'est un moment historique, parce qu'il y a un accord de normalisation. C'est pas vraiment un accord de paix, parce qu'il n'y a pas eu de guerre entre les deux pays, mais quand même, c'est un pays arabe très important. Il est très actif dans le monde arabe et surtout dans le Golfe. C'est un pays qui a une activité tant politique comme commerciale et sur le plan du tourisme. Et donc, Israël, non seulement contente du point de vue politique du fait qu'il y a cet accord, mais aussi sur le plan économique, je crois qu'il y aura développement de relations de commerce entre les deux pays. Il y a la possibilité d'investissement des Émiraux en Israël et aussi la vente de technologies pour l'État arabe. Du point de vue des Émiraux, c'est très important d'abord dans l'alliance, une sorte d'axe contre la menace iranienne.
D'accord. Et que gagnent les États-Unis dans tout cela? Les États-Unis ont beaucoup œuvré pour cet accord. Que gagnent les États-Unis?
Oui, je crois, du point de vue du président Trump, c'était très important, surtout avant les élections, d'avoir un succès sur la politique extérieure.
Le docteur Eli Carmon de l'Institut international antiterrorisme de Tel Aviv. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie du Tristan Sedoudia et de Michel Joseph à la Nouvelle Monde. Bonne journée à l'écoute de VOA.